Lundi, le 18 juin 2018, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission Les Voix de Service Magazine, qui a comme mission, je vous le rappelle, de vous faire la lecture d'articles de toutes sortes et de blogs, naturellement, que l'on retrouve sur Internet. Nous sommes à quelques jours de cet été, qui va être officialisé par la date de jeudi prochain, le 21 juin, d'ailleurs, l'été officiellement à 10h27 du matin. Et on espère que la température fera honneur à la saison, n'est-ce pas? Je vous présente tout de suite un nouveau collaborateur ce matin, en fait, qui est là pour nous lire un article, M. Lassen Nagy. Comment allez-vous?
Bonjour à tous.
Alors, vous allez nous lire un article que vous avez retrouvé sur passeportsanté.net.
Exactement, un article sur l'arthrose et les aliments qu'on peut manger ou cuisiner pour soulager la douleur liée à l'arthrose.
Ah, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont de l'arthrose ici?
Non, pas encore.
Pas encore? Ok, c'est bien. On va quand même prendre des conseils. Alors, celui que vous avez entendu, c'est Roger Roy.
Oui, bonjour.
Bon matin.
Bonjour Claude, bonjour. Bonjour, Monsieur Lassen. Bonjour, Serge.
Bonjour
tout le monde. Je vais terminer bientôt.
Oui, ça va.
Alors, j'ai deux textes à vous proposer ce matin. C'est un qui parle de santé, un peu non.
Ah.
Parle d'alimentation, parce que notre ami ici a parlé d'alimentation.
Qui est en lien avec la santé quand même.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est un dilemme qu'on a de nos jours, à savoir comment respecter l'écologie tout en gardant l'œil sur une alimentation saine.
Ah.
C'est une impasse. C'est une impasse d'après David Desjardins.
Mm-hmm.
Et le second sujet, c'est l'intelligence artificielle. Ça va mal aller tout à l'heure.
Ah.
On peut imiter toutes sortes de voix maintenant, même les personnes décédées.
Ah, quand même.
L'intelligence artificielle, c'est sérieux. Il y a des gros problèmes d'éthique.
Bon. OK.
Bon, on va entendre des voix d'outre-tombe. Bon, alors moi, je vais vous parler d'assurance habitation, d'assurance, quelles sont les meilleures assurances habitation, assurance auto.
Mm-hmm.
C'est la revue Protégez-vous qui a fait ses enquêtes habituelles dans ce domaine particulier. Et l'autre, je vais vous parler de l'autre sujet, nouvel arrivant, nouvelle pratique à propos des immigrants.
Ah oui?
Oui, je vais vous parler de ça ce matin.
OK,
ceux qui arrivent au Canada, puis là, ils arrivent avec des notions différentes.
Oui, c'est vrai.
Ah ben oui.
Celui que vous avez entendu, il s'appelle Serge Hamelin.
Ah oui, c'est moi.
J'avais oublié de vous présenter.
Non.
Ouais.
Merci.
J'avais fait ça.
Okay.
On vous revient dans quelques instants avec M. Roger Roy. Monsieur Roy, qui dit vrai?
Qui dit vrai, c'est la question. La question qui est posée par Marc-André Sabourin, c'est dans l'actualité du mois de juillet. Quand Barack Obama a pris le micro au printemps 2017 pour vanter les prouesses d'une cool start-up de Montréal, l'effet a été immédiat. Investisseurs et journalistes ont cogné à la porte de Learbird. La petite entreprise d'intelligence artificielle aurait eu de quoi être fière si elle n'avait pas elle-même fabriquer l'extrait audio de l'ancien président américain. Learbird est maître dans l'art de reproduire la voix. À partir d'un enregistrement vocal d'à peine une minute, son algorithme peut imiter n'importe qui et lui faire dire n'importe quoi. Céline Dion qui clame son amour pour la pizzeria de votre quartier, Donald Trump qui déclare la guerre à la Corée du Nord, à l'auditeur de déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Si vous pensez que la vérité a la vie dure ces temps-ci, vous n'avez encore rien vu. Learbird n'est que l'une des nombreuses entreprises d'intelligence artificielle qui tentent de créer des sons ou des images indiscernables de ceux de la réalité. Avec sa posture bien droite, le PDG de Learbird, Alexandre de Brébisson, projette une image de perfection semblable à celle de ces robots humanoïdes dans les œuvres de science-fiction. Créer une intelligence artificielle aussi évoluée que ses personnages imaginaires est le but ultime de l'entrepreneur de 28 ans, et la voix est une composante de cette quête. Aussi impressionnant soit-il, les extraits audio mis en ligne à ce jour par Learbird ne tromperont personne, en partie parce que la jeune pousse indique expressément la facticité de ses créations, mais surtout parce que les voix imitées ont toutes un je ne sais quoi d'artificiel qui les classe automatiquement dans la catégorie « robot ». Ces enregistrements datent toutefois de plus d'un an. Et l'entreprise a fait énormément de progrès depuis, assure Alexandre de Brébisson. Les voix synthétiques qu'il a fait écouter à l'actualité à micro fermé étaient en effet bluffantes. Pour les courtes phrases, impossible de dire s'il s'agissait d'un humain ou d'une machine. Nous essayons aussi de rendre l'émotion avec différentes intonations, ça commence à fonctionner. Ce que Learbird souhaite faire avec cette technologie n'est pas clair pour le moment. La jeune pousse a bien quelques projets pilotes, dont un avec une agence de publicité qui souhaite ressusciter les voix d'une personnalité décédée, comme le disait Serge Amelin si bien tout à l'heure. Mais la priorité des trois cofondateurs, tous des étudiants de la Sommité québécoise en intelligence artificielle, Yoshua Bengio, est d'améliorer la qualité de leur algorithme. Un luxe rendu possible par Andreessen Horowitz, l'une des sociétés de capital de risque les plus en vue de la Silicon Valley, qui a investi une somme non dévoilée dans l'entreprise. L'approche « on construit et on verra », fréquente dans le secteur techno, ne devrait pas être appliquée au champ de l'intelligence artificielle, croit l'ancien ingénieur logiciel Shahar Avin. Cet expert, qui étudie désormais les risques existentiels à l'Université de Cambridge, pensez à tout ce qui menace l'humanité, de la bombe nucléaire à la grippe aviaire, croit que trop de chercheurs sous-estiment le mauvais usage qui pourrait être fait de leurs algorithmes. Ils créent des technologies, puis d'autres personnes se trouvent aux prises avec les conséquences. Déjà, des amateurs se sont emparés de techniques d'intelligence artificielle pour substituer les visages d'acteurs dans des films. Des extraits en ligne montrent ainsi Nicolas Cage dans la peau d'Indiana Jones à la place de Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Hélas, cette technique est aussi utilisée pour insérer des vedettes ou d'ex-petites amies dans des films porno sans leur consentement. Et encore, cet exemple fait pâle figure en comparaison du contenu du rapport sur le mauvais usage de l'intelligence artificielle, publié récemment par 26 auteurs, dont Shahar Avin. Ce document recense une vingtaine de dérapages possibles à court terme, dont des fausses nouvelles audio et vidéo hautement réalistes qui menacent la sécurité, l'économie et la démocratie. Dans le climat actuel, imaginez les conséquences d'une fausse vidéo où des demandeurs d'asile s'attaquent à une dame âgée dans la rue. Loin de proscrire la recherche en intelligence artificielle, le rapport recommande aux chercheurs de faire preuve de davantage de prudence et invite les législateurs à réfléchir aux façons d'encadrer ce domaine scientifique. Nous avons besoin d'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, dit Shahar Avin, en donnant l'exemple du clonage humain qui a été interdit par l'ONU en 2005. L'utilisation à mauvais escient de l'intelligence artificielle pourrait aussi être contrecarrée par l'intelligence artificielle. C'est ce que tente de faire Dean Popperlo, professeur adjoint à l'Institut de robotique de l'Université Carnegie Mellon. Dans la foulée de l'élection de Donald Trump, il a cofondé le Fake News Challenge, un concours ayant pour objectif de créer un algorithme d'intelligence artificielle capable d'assister les journalistes dans la détection des articles trompeurs. 50 équipes y ont participé l'an dernier, et bien qu'il y ait encore place à l'amélioration, les résultats donnent espoir aux professeurs. Les avancées récentes dans la synthèse audio et vidéo l'empêchent toutefois de crier victoire. Dean Popperlo a l'impression d'assister à une course à l'armement et l'attaque est toujours plus facile que la défense. Il souhaite d'ailleurs que les participants du prochain Fake News Challenge, dont la date demeure à déterminer, se mesurent aux créations d'entreprises comme Learbird. Alexandre de Brébisson voit de telles initiatives d'un bon œil. C'est notamment pour stimuler la recherche sur les nouveaux moyens d'authentification que Learbird a dévoilé l'existence de ses voix synthétiques en 2017. Le PDG est conscient des dérives potentielles de la technologie perturbatrice de son entreprise, mais cela ne l'effraie pas. Si on regarde dans le passé, la société a toujours réussi à s'adapter aux innovations, à en utiliser les bons côtés plutôt que les mauvais. Alors le journaliste de conclure, c'est Marc-André Sabourin, en disant « Espérons que l'histoire se répétera ». C'est un petit peu fatigant, hein?
Oui, c'est fatigant. Vous savez que quand même, on peut acheter des logiciels pour le commun des mortels, hein? On peut acheter ça comme moi, oui. Chez moi, puis je peux transformer la voix de qui je veux, quand je veux. Alors, vous voyez, on est beaucoup plus avancé avec l'article de l'actualité. Beaucoup plus. Dans quelques instants, on vous revient avec notre collaborateur invité, M. Lassen. We'll be right back. Alors, Monsieur Lassen, vous allez nous parler... Oui, allez-y.
Oui, effectivement, je vais vous parler de l'arthrose aujourd'hui.
Oui.
Et plus précisément de 5 aliments qui permettent de soulager cette douleur.
Mm-hmm. Bon truc.
Pardon ?
Allez-y, bon truc.
Merci. Écoutez, pour commencer, je vous dirais que la santé passe par ce que nous mangeons. Et c'est d'autant plus le cas lorsque l'on souffre de maladies comme l'arthrose, pour lesquelles il n'existe pas de traitement thérapeutique. Certains aliments sont d'ailleurs particulièrement indiqués pour soigner ce mal. Mmh. Alors, petit rappel pour commencer, l'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue et se caractérise par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation, aussi bien au niveau de la colonne vertébrale que des doigts, des genoux, des hanches, épaules, coudes, etc. Son évolution est imprévisible et il n'existe aujourd'hui que des traitements symptomatiques, de type antalgique, anti-inflammatoire non stéroïdien, infiltration de corticoïdes, etc. Néanmoins, certaines mesures non médicamenteuses sont indispensables pour limiter la progression de la maladie. Outre la pratique d'une activité sportive régulière, il est aussi conseillé de surveiller son poids et son alimentation. Certains aliments sont par ailleurs particulièrement recommandés dans des cas d'arthrose, et c'est ce dont je dois vous parler ce matin. Alors, en premier lieu, je vais vous parler du curcuma. Le curcuma est une épice santé qui a le vent en poupe en raison de ses nombreux bienfaits. Outre ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, il a aussi des vertus antioxydantes. Et selon le docteur Franck Guillon, spécialiste des plantes médicinales, des milliers d'études ont été publiées à son sujet depuis 10 ans. Ces pigments polyphénoliques, appelés curcuminoïdes, ont révélé des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de premier plan. Ainsi, le curcuma a un effet réel bénéfique sur l'arthrose et permet notamment de limiter les raideurs et la douleur conséquentes de cette maladie. Deuxième aliment santé, le gingembre. Le gingembre est un aliment thérapeutique utilisé depuis l'Antiquité. Ce rhizome à la saveur piquante et parfumée possède de multiples vertus. Il permet notamment de calmer les nausées et stimule la sécrétion de bile, facilitant ainsi la digestion. Et je ne vous parle pas de ses propriétés aphrodisiaques qui sont particulièrement connues.
Non.
Non, je ne vous en parle pas. autre atout du gingembre, ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes dues au gingérol, au shogaol et aux ingérones qu'il contient. Par conséquent, cette épice est un véritable allié pour lutter contre les douleurs articulaires et donc l'arthrose. Troisième aliment, plus sucré ce coup-ci, la cerise. Comme tous les petits fruits rouges, la cerise est gorgée d'antioxydants. Bon à savoir, la cerise acidulée, celle qu'on utilise pour faire du jus par exemple, est 5 fois plus riche en antioxydants que la cerise douce. Vous le saviez ?
Non.
On en apprend des choses aujourd'hui.
Mais c'était quelle cerise déjà ?
La cerise acidulée.
Acidulée. Ah.
Ce sont les anthocyanines de la cerise acidulée qui lui procurent ses propriétés antioxydantes. Si vous avez des difficultés à trouver ce fruit frais, n'hésitez pas à en acheter sous forme de jus. Cette boisson est d'ailleurs plébiscitée par les sportifs pour soulager leurs douleurs au niveau des articulations. Alors si vous souffrez d'arthrose, n'hésitez pas à en boire. Quatrième aliment, les noix. Les oméga-3 permettent de lutter contre l'inflammation, et ça tombe bien, puisque les noix en contiennent une quantité importante. Elles se distinguent des autres fruits à écales et oléagineux par son contenu particulièrement élevé en acides gras polyinsaturés, principalement sous forme d'oméga-3. N'hésitez donc pas à introduire quotidiennement des noix dans votre alimentation, elles soulageront vos douleurs articulaires liées à l'arthrose. Sachez également que ce fruit oléagineux contient la proportion idéale d'acides gras oméga-3 à avoir dans notre alimentation quotidienne. Et enfin, le chou. Le chou qui fait partie de la famille des crucifères. Ce légume est riche en vitamines B1, B6, C, K, fer, et manganèse, mais aussi en antioxydants, et il est particulièrement conseillé dans le cadre d'une alimentation anti-arthrose. L'idéal pour le chou est de le consommer cru, ou bien très peu cuit, car il perd certaines propriétés santé, les glucosinolates, lors de la cuisson. Même si la variété la plus riche en antioxydants est le chou frisé, n'hésitez pas à manger des choux de Bruxelles, des choux kale, des choux rouges, des choux fleurs, toutes les sortes de choux que vous pouvez trouver. Voilà pour la présentation de ces cinq aliments. J'espère que leur énumération, l'énumération de leurs qualités, vont vous donner des idées de recettes pour vous accompagner tout l'été.
Merci beaucoup. Ça, on en apprend des choses.
Oui, mais
quand même. Oui. Alors, ah ben oui. On va aller chercher des noix pendant la pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Beaucoup plus simple que les choux.
Alors, on s'en va à la pause musicale et tout de suite après, c'est le tour à Serge.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so, oh, to believe in. And it hurts so much inside. And now she'll go her way and I'll go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, the same time.
On vient d'entendre la pièce « Me and Mrs. Jones ». C'était Michael Bublé qui reprenait ce succès de Billy Paul, une pièce qui date de 1972, dont plusieurs autres personnes ont découvert cette pièce avec la version française que François Pérusse a repris, oui, avec l'album du peuple, tome 2, Guy a un Bessic, Bessic jaune.
Ah, je me souviens bien de ça. Ok, c'est bon. Alors Serge, on parle d'assurance.
Ben oui. J'espère que cela va vous rassurer. Donc, assurance auto et habitation, c'est une enquête. Et l'article a été écrit par Frédéric Perron, journaliste, Clémence Lamarche et Charles Désy, qui ont été chargés de projet dans la revue Protégez-vous. André Dupuis, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connais pas, est vraiment malchanceux. C'est un exemple qu'on donne ici d'un monsieur. Là. Au cours des 5 dernières années, l'auto de ce résident de Montréal a subi 2 collisions arrière, ça fait mal. Un des miroirs a été arraché 2 fois, le pare-brise a été fracassé lors d'une réparation mineure et le plafond a été brûlé par un objet réfléchissant laissé dans l'auto. Rien que ça. Et le pire, c'est qu'en aucun cas, je n'étais responsable, dit-il. Ce qui n'a pas empêché son assureur, SSQ Assurance, d'augmenter ses primes au fil des années. La dernière hausse pour son assurance auto en 2017 a été particulièrement forte. Sa prime annuelle passait de 1 275 $ à 1 800 $. Il s'est donc tourné vers une autre entreprise qui a accepté de couvrir son véhicule pour 700 $.
Ah.
Eh oui. Alors cette année-là, André Dupuis a enfin été chanceux puisqu'il a économisé 1 100 $. Alors, comment on fait ça? Eh bien, demander des soumissions auprès de plusieurs compagnies peut s'avérer payant. Les 4 couples qui ont joué aux enquêteurs pour Protégez-vous en ont fait l'expérience. Et les 14 assureurs et les 3 services en ligne qu'ils ont contactés pour ce dossier leur ont tous proposé des prix très différents. Alors, l'écart entre la prime la moins chère et la plus chère a même atteint 1 791 $. C'est pour dire, hein? Alors, mais tout n'est pas une question de prix. Au moment de faire une demande de réclamation, n'importe quel consommateur espère de sa compagnie d'assurance qu'elle traitera son dossier rapidement, qu'elle offrira un remboursement intéressant et qu'elle ne tardera pas à payer. Et quelle entreprise offre le meilleur service? On a posé la question à 2127 assurés. Et voici ce qu'ils disent. Champion de la satisfaction. Voulez-vous savoir c'est qui?
Oui.
Le groupe financier industriel Alliance. La personnelle et la capitale assurance générale trônent au sommet du palmarès de satisfaction. Les assurés qui ont répondu au sondage mené sur le site dataconso.ca, apprécient le service qu'ils y ont reçu lorsqu'ils ont dû réclamer des dommages. Ouais. Mais qu'en est-il de leurs tarifs? Alors, ils ont été payés extrêmement rapidement, mais leurs tarifs? Eh bien, la capitale assurance générale et la personnelle ont présenté aux clients mystères des soumissions qui se situent généralement dans la moyenne des prix. L'IA, groupe financier industriel Alliance, n'est toutefois pas dans la course. Cet assureur a proposé les primes parmi les plus chères à 2 de nos enquêteurs. Et lors de notre enquête de prix par téléphone, c'est Co-Operators qui s'est nettement démarqué auprès des clients mystères. Et l'entreprise s'est classée parmi celles qui ont proposé les primes les moins élevées aux 4 couples d'enquêteurs. Les 21 assurés de Co-Operators qui ont déjà fait une demande de réclamation auprès de l'assureur et qui ont répondu au sondage ont souligné leur appréciation quant à la rapidité de l'entreprise à traiter les demandes. Et les données récoltées au sujet de cet assureur étant toutefois insuffisantes, on n'a pas pu le classer dans le palmarès de satisfaction. Cela dit, n'oubliez pas que le montant des primes peut varier selon votre profil, le type d'habitation, bien sûr, de voiture et de biens que vous assurez. IA, groupe financier, industriel Alliance, la capitale assurance générale et la personnelle pourraient faire partie des entreprises qui vous offrent les meilleurs prix. Et si le service à la clientèle vous tient particulièrement à cœur, surtout au moment de faire une réclamation, eh bien, vous aurez droit au meilleur des deux mondes. Alors, maintenant, vous voulez savoir combien vous coûterait votre assurance habitation, oui, assurance auto. Il y a 3 étapes clés pour magasiner vos assurances. Alors, vous en avez assez des hausses de primes de votre assureur et vous songez à aller voir ailleurs, ce que je songe d'ailleurs, d'aller voir ailleurs. Passez par clicassurance.com. Ah. Aha. Les trois services en ligne qu'on a testés, clicassurance.com, canetix.ca et covera.ai, possèdent chacun un réseau d'au moins 10 assureurs partenaires. Ces sites vous permettent d'obtenir des soumissions en ligne de plusieurs compagnies en même temps, ce qui est moins long et fastidieux que d'appeler séparément chacune d'elles, voyez-vous? Et selon l'enquête, la plupart du temps, clicassure.com permet d'obtenir les meilleurs prix. Alors, clicassure.com. Les deux autres services, canetix.ca et covera.ai, ont quant à eux présenté de moins bons prix en général et dans plusieurs cas n'ont pas pu fournir de soumission complète pour l'auto et la maison. Et demandez un prix aux meilleurs assureurs du palmarès, OK? Alors, IA, Industrielle Assurance et la Capitale Assurance Générale, partenaires de clicassure.com, ne sont pas apparus dans les résultats de recherche. Alors, ces entreprises étant classées parmi les trois meilleures en termes de satisfaction, en cas de réclamation, alors tentez de voir si vous y obtiendrez de bons prix. Contactez également la personnelle qui ne fait pas partie du réseau de clicassure.com, mais qui occupe la deuxième place dans le palmarès de satisfaction. Mmh. Alors, est-ce que tout ça vous rassure?
Oui.
Voulez-vous en savoir plus?
Allez-y.
On y va? Ouais. Alors, négociez. Si vous êtes satisfait des services de votre assureur actuel, utilisez les soumissions obtenues pour... c'est ce que je fais pour quand vient le temps de Vidéotron, là, Bell Canada.
Ah,
là,
oui.
Hein, uh-huh. Tu dis, ah, Bell Canada m'a téléphoné, il m'offre ceci.
Voici.
Hein, c'est bon. Alors, vous êtes satisfait de vos services de votre assureur actuel? Utilisez les soumissions obtenues ailleurs comme outil de négociation pour tenter d'avoir de meilleurs prix. Mmh. Et selon le sondage, 62 % des assurés qui ont négocié leurs primes ont réussi à obtenir des baisses de tarifs.
Ah!
Alors, voilà.
Alors voilà, pourquoi alors, pas le faire, hein?
Ben oui.
Ça prend quelques minutes des fois, hein? C'est comme aller sur clic.
C'est un plaisir.
En fait, oui, c'est un plaisir en plus. Oui, passer plusieurs minutes avec un représentant d'assurance.
Oh, c'est rassurant.
Quel bonheur! Alors voilà, on se dirige vers la deuxième demi-heure de l'émission.
Ouais.
Et on aura aussi un collaborateur invité, un autre collaborateur invité. Merci, M. Lassène Nagy, pour votre
merci
lecture.
Merci à vous, merci de votre accueil.
Je veux manger des cerises.
Oui, on vous souhaite une
acidulé.
Bonne continuité.
Ah.
Oui. Voilà, on vous revient. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity,
and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Retour en 1971 avec le chanteur américain Don McLean et la pièce Vincent ou Vincent tirée de son album American Pie. Si vous aviez reconnu la voix du chanteur, c'est lui qui chantait Bye Bye Miss American Pie.
Ah, quelle douceur ce matin. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Alors, on poursuit avec Roger qui nous parle d'impasse.
Oui, une impasse. Mm-hmm. L'écologie versus l'alimentation. Ah. C'est David Desjardins qui est pris dans cette impasse-là. Mm-hmm. Il nous l'explique.
Ah, parfait. Pas
sûr qu'on va voir qu'il y a une solution, mais il réfléchit.
Et voilà, c'est le principal. On y va.
Tout de suite?
Ah, ben oui.
Bon, tout le monde est pour la vertu. Hein? Reste à décider laquelle. Prenez la nourriture. Cet hiver, j'ai choisi de réduire la part de viande que je mange parce que c'est meilleur pour ma santé, parce que je suis de moins en moins à l'aise avec l'abattage de masse et aussi parce que sa consommation recèle une effarante empreinte écologique. J'ai diminué de moitié le bœuf, le porc et la volaille, voire plus encore. Il me faut donc consommer des protéines qui proviennent du poisson, des produits laitiers, des végétaux pour remplacer celles que me procurait la viande. Les amandes? Voilà un excellent succès d'année, mais en produire un kilo nécessite 4000 litres d'eau, rien que ça. Elles nous arrivent souvent de la Californie où la sécheresse guette chaque année ou presque. Quant aux poissons, lorsque je songe aux eaux dégueulasses dans lesquelles on les élève, aux métaux lourds que j'ingère avec mon thon sauvage et aux polluants qui se logent dans le gras de mon saumon avec ses précieux oméga 3, mm-hmm. je me demande s'il ne vaudrait pas mieux m'envoyer quelques Big Mac, finalement. On me propose de manger les bons gras de l'avocat pour reproduire l'effet rassasiant des protéines. Pour épargner ma conscience, il faudra tenter d'ignorer que leur culture massive est à l'origine de l'empoisonnement de villages entiers au Mexique en raison des divers fongicides, fertilisants et pesticides épandus dans les champs illégaux qui poussent partout dans la région de Michoacán pour répondre à la demande qui explose. Si bien que même les cartels de la drogue investissent dans cette manne qui pollue et asservit les populations en plus de contribuer au blanchiment d'argent. Plus ça va... Et plus j'ai le sentiment de ne jamais pouvoir faire les bons choix. Que chacune de mes décisions pour la santé ou l'environnement contribue à m'empoisonner autrement ou à salir le monde d'une nouvelle manière. Je songe à acheter une voiture électrique. Elles utilisent des piles hyperpolluantes et des métaux rares dont l'extraction est un monstre écologique qui bouscule l'ordre géopolitique mondial. Ce sont les mêmes que l'on trouve dans nos ordis, nos téléphones portables et la plupart de nos gadgets connectés, qui, eux aussi, devraient nous permettre d'être plus verts parce qu'on économiserait du papier, tiens.
On nous bassine avec le recyclage depuis des lustres. Ce dernier en est venu à parfaitement illustrer les limites de notre volonté de mieux faire sans trop changer nos habitudes. Du verre jeté à la tonne, du plastique pour lequel on ne trouve pas toujours preneur. On a parfois le sentiment que nos déchets n'ont fait que changer de conteneur, ce qui apaise nos consciences plus qu'autre chose. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et dans les changements sociaux, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Mais se pourrait-il que l'avalanche d'informations sur la santé et l'environnement finisse par avoir l'effet contraire à celui escompté, un désengagement, une démission devant l'ampleur sisyphienne, de notre amélioration collective? Les données et études contradictoires nous font vivre dans un état de culpabilisation permanente. Nous sommes donc plus ou moins condamnés à exister dans cette sorte de schizophrénie constante pour jongler avec le mode de vie occidental et la conscience sociale ou environnementale. Et ça, ça rend mal à l'aise. Sans parler de l'impression que chacun de nos gestes prétendument progressistes est finalement annulé par une nouvelle découverte ou le contre-coup d'un changement d'habitude massif, ce qui est hautement décourageant. Depuis quelques années, nombre de penseurs et de stratèges politiques tentent d'expliquer la montée des nouveaux populismes. On cherche le plus souvent à les expliquer par un choc culturel, l'arrivée de nouveaux immigrants et avec elle le retour du religieux dans l'état laïque en même temps que l'effritement des identités nationales, mais ce n'est qu'une partie du problème. Ce qui est en train de se tramer tient aussi à la remise en question de notre mode de vie. Réconcilier le consumérisme et l'écologisme tient du fantasme. Nous en prenons conscience peu à peu, et cela vient ébranler notre identité autant que peut le faire un affrontement culturel, parce que c'en est un. Depuis la nuit des temps, l'humain cherche le confort d'une existence à l'abri de turpitudes. Il ploie aujourd'hui sous le poids d'un mode de vie qui le rend malade, qui hypothèque les générations futures, mais pour lequel on ne lui offre que trop rarement une voie d'évitement valable, vraiment durable. À chaque changement, on lui dit que ce n'est pas suffisant, pas vraiment efficace, ou alors contre-productif. S'il a le sentiment d'être pris dans une impasse, un animal peut se rebiffer et devenir agressif. C'est peut-être ça aussi qui est en train de se produire dans nos sociétés. Ah. Une impasse, bien soulignée par David Desjardins dans l'actualité du mois de juin.
Tout à fait, ça nous fait parfaitement réfléchir. Hein? Quand même, on va revenir dans quelques instants. Alors ce matin, pour cette deuxième demi-heure, on est heureux d'accueillir M. Yannick Marcil, qui est chroniqueur au magazine Itinéraire. Bon matin.
Merci de l'accueil.
Ça va bien?
Très bien vous-même.
Oui, merci. Alors, vous allez nous lire un article que vous avez écrit dernièrement.
C'est ça? Tout à fait, c'est dans le numéro en cours, celui du 15 juin, qui est en vente à Montréal.
D'accord.
Présentement. Et donc, c'est ma chronique qui s'intitule « Les rapaces ».
Alors, on vous écoute.
J'ai fait un rêve étonnant récemment. J'étais à l'endroit que je préfère, dans la forêt familiale. Au-dessus de moi, très haut dans le ciel, volaient des dizaines, des centaines d'oiseaux de proie. Outre leur grand nombre, ce qu'il y avait d'inusité est qu'ils volaient tous en ligne droite dans la même direction, côte à côte, et que de nombreuses espèces différentes se côtoyaient. Pigargues, cresserelles, buses et autres faucons se dirigeaient silencieusement dans la même direction. Règle générale, les espèces différentes ne cohabitent pas dans la nature, sauf en cas d'avantages mutuels. J'adore les oiseaux, j'en fais l'observation depuis mon enfance. J'aime aussi interroger le sens des rêves. Que peut bien signifier celui-là? D'ordinaire, les rapaces sont peu grégaires. Si plusieurs d'entre eux vivent en couple longtemps, dans la plupart des cas, ils ne cohabitent pas en bande. Leur territoire de chasse est souvent très vaste, ce qui fait que pour éviter une concurrence inefficace, ils n'empiètent pas sur le terrain des autres. Dans mon rêve, c'était tout le contraire. Non seulement les oiseaux d'espèces différentes volaient les uns à côté des autres, dans la même direction, mais ils étaient très proches les uns des autres. Ces redoutables chasseurs à la vue perçante cohabitaient pacifiquement en se dirigeant dans la même direction. Évidemment, mes réflexes d'économiste hétérodoxe voient dans cette image la coopération entre les grands rapaces de la finance mondiale. Même s'ils sont différents les uns des autres, ils appartiennent tous à la même grande famille. Trônant au sommet de la pyramide alimentaire, ils n'ont à peu près pas de prédateurs et règnent en maître sur leur territoire. Très haut dans le ciel, ils complotent pour aller dans la même direction sans se faire entendre par nous, ici-bas. Ça n'est pas pour rien qu'ils sont silencieux. Leur plan est ourdi, leur distance est si lointaine que nous ne pouvons même pas y avoir accès. Cette interprétation peut paraître simpliste. Elle l'est en effet. Mais elle correspond tout de même à une réalité de plus en plus présente dans nos sociétés. Celle d'une ploutocratie inaccessible dont les conséquences de leurs actions se situent au-dessus des lois. Lorsqu'on vole si haut dans le ciel sans considérer ce qui se passe au ras du sol, on crée une distance avec le réel. Ces gens s'en détachent. De notre réalité, ils ne comprennent plus rien, en fait. Ils vivent dans leur petit monde artificiel qui a pourtant des conséquences réelles sur le nôtre. Une autre interprétation est possible. Les rapaces, malgré leur nom qui est souvent connoté négativement, sont de très nobles animaux. Ils vivent en hauteur, au propre comme au figuré. Leurs aires, A-I-R-E-S, leurs nids, sont dans les arbres au sommet des montagnes. Ils ne descendent au sol que pour capturer les proies qui les nourriront, eux et leurs familles. Les rapaces ne tuent pas pour rien. Ils tuent pour se nourrir, pour ne pas mourir, pour leur rejeton. Lorsqu'ils atteignent notre monde terrestre, c'est pour vivre. Il y a là, me semble, une noble leçon. Chasser le strict minimum qui suffit à sa pitance, ce qui est l'inverse de ce que représente l'appât du gain des grands financiers de notre économie. Et c'est peut-être à l'image de ce que notre collectivité devrait valoriser, la solidarité. Cette solidarité pourrait, devrait, émerger des puissants pour le bien de tous.
Effectivement. Très beau texte.
Merci.
Merci, M. Marcille. Et on va vous retrouver à quelques reprises quand même cette année.
Normalement, une fois par mois.
Une fois par mois, c'est bien.
Avec plaisir.
Bien heureux de vous retrouver dans un mois. Ah, c'est ça?
Absolument.
On revient dans quelques instants. Alors, de mon côté, j'ai retrouvé un texte sur la presse, en fait, sur le site de la presse, et c'est un papier de Mathieu Perrault. Et savez-vous qu'on nous dit souvent « buvez de l'eau, buvez de l'eau ». Mais vous savez que si on en boit trop, on peut être très, très malade. Et c'est à quoi il fait allusion. Il dit que si la déshydratation est dangereuse, l'hyperhydratation l'est tout autant, appelée hyponatrémie. Le déséquilibre d'électrolytes lié à une hydratation excessive peut s'avérer mortel, imaginez. Après la déshydratation, l'hyperhydratation, des chercheurs montréalais ont découvert pourquoi le corps pousse à boire trop d'eau ou à ne pas en éliminer suffisamment. Ce déséquilibre d'électrolytes peut être mortel et touche une victime de commotion sur quatre. On a beaucoup entendu parler de fêtards qui prennent de l'ecstasy, entre autres, et se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont trop bu d'eau. Mais l'hyponatrémie, le déséquilibre d'électrolytes lié à une hydratation excessive, menace beaucoup d'autres personnes, entre autres des athlètes, même les cardiaques en passant par les patients ayant subi un traumatisme crânien. Les déséquilibres de minéraux sont parmi les 10 premières causes d'admission à l'hôpital, explique Charles Bouc, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, auteur principal d'une étude sur le sujet qui vient d'être publiée dans la revue Cell Reports. Ce n'est pas seulement l'hydratation excessive qui est en cause. L'ecstasy, par exemple, dit au corps d'augmenter la production de l'hormone antidiurétique vasopressine qui favorise la rétention d'eau. Dans ces cas d'infractus, le traumatisme crânien et certaines formes de cancer, il y a aussi de l'hyponatrémie. Parfois, c'est un changement de la fonction du rein qui donne l'impression au patient qu'il a soif. Un quart des traumatismes crâniens sont accompagnés d'hyponatrémie. Si un patient est admis à l'hôpital avec cette fameuse hyponatrémie, il a une chance sur cinq de mourir. Avec une hyponatrémie sévère, le risque de mourir augmente à 30%. Et les sportifs maintenant, dans cette cause, à la fin d'un marathon, par contre, n'ont pas un risque de mortalité aussi élevé parce qu'ils sont par ailleurs en bonne santé. Certains médias anglophones ont évoqué, dans leur article sur l'étude de M. Bourque, un mode d'hydratation extrême chez certaines célébrités. On a écrit entre autres que Tom Brady, le corps arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, boit une quantité d'eau équivalente à son poids, dit M. Bourque. Mais en fait, il boit 10 % de son poids, soit 2 à 3 fois les recommandations. Comme il sue beaucoup lors de ses entraînements, c'est peut-être adéquat. Le laboratoire de M. Bourque est spécialisé dans l'étude de la déshydratation. On est les spécialistes du mécanisme qui permet au cerveau de détecter la déshydratation. Parfois, ce système marche mal et le patient n'a pas soif même s'il est déshydraté. Nous étions les mieux placés pour étudier la détection de l'hyponatrémie par le cerveau. Nous avons une souris génétiquement modifiée à qui il manque l'une des composantes du système permettant au cerveau de détecter la fameuse déshydratation. La prochaine étape maintenant sera d'étudier comment se comporte ce système de détection de l'hyponatrémie chez les patients ayant subi une commotion cérébrale en collaboration avec la neurochirurgienne Judith Marcoux du CUSUM. On veut voir quels patients sont plus à risque et comment on peut traiter l'hyponatrémie, dit M. Bourque. Il se peut que ce ne soit pas dû à un sentiment exacerbé de soif maintenant à une déshydratation excessive, mais plutôt à une surexpression d'hormones antidiurétiques comme la vasopressine, qui favorise la rétention d'eau. Dans le cancer du poumon à petites cellules, certaines cellules dans les poumons fabriquent de la vasopressine, dit le neuropsychologiste, pour donner un exemple. Et en chiffres maintenant, écoutez bien, 22 % des femmes ayant participé au marathon de Boston en 2002 étaient en hyponatrémie après la course. 22 % des femmes. 8 % par contre des hommes ayant participé au même marathon étaient eux aussi en hyponatrémie après la course naturellement, et 0,6 % des participations au marathon, le même, en 2002, étaient en hyponatrémie extrême après la course. Alors, vous voyez, trop boire, c'est pas nécessairement bon. Et mon médecin me disait, justement, boire de l'eau, et je vais... c'est drôle quand même de dire ça, mais quand vos urines sont claires, arrêtez de boire de l'eau. C'est ce qu'il me disait. C'est un médecin.
Ah bon?
Alors, je l'ai retenu. On vous revient dans quelques instants avec Serge qui nous parle des nouveaux arrivés.
Oui.
Serge, d'actualité d'ailleurs, hein, les nouveaux arrivés,
on en
parle
beaucoup.
C'est
pas ça qui manque. Hein? Mm-hmm. Il y en a des nouveaux arrivants. Ouais, et c'est merveilleux. Mm-hmm. Et nouvelles pratiques aussi. Uh-huh. Alors, ceux qui arrivent de pays étrangers arrivent ici avec des pratiques canadiennes, québécoises. Ah. Mm-hmm. Changer de pays, c'est découvrir une langue, une culture, un style de vie. Et bien souvent, une nouvelle façon de gérer son argent. Et besoin d'un coup de pouce? Suivez le guide. Alors, la revue Protégez-vous s'en est occupée et l'article a été écrit par Emmanuel Grill. Des taux d'intérêt, et ça c'est quelque chose, de 20 % sur une carte de crédit. Oh. Alors, Anna Auguste ne savait même pas que ça existait quand elle a quitté sa France natale pour venir s'installer au Québec en 2009. « Je ne voulais pas de carte de crédit, raconte-t-elle, mais comme on me demandait partout mon historique de crédit, okay, je n'ai plus eu le choix. Et parce qu'elle en comprenait mal le fonctionnement, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée avec un solde de 20 000 $. Même les paiements minimaux la prenaient à la gorge. » Et la mort dans l'âme, elle a dû déposer une proposition de consommateur. La jeune femme est aujourd'hui tirée d'affaire, mais elle déplore le manque d'informations dans ce domaine. « Je suis entré dans le système sans savoir le gérer, et cela a été la catastrophe », conclut-elle. Et selon Statistique Canada, le Québec accueille en moyenne 50 000 immigrants chaque année, venus principalement de France, d'Haïti, d'Algérie, du Maroc et de Chine. Et comme d'un pays à l'autre, les pratiques financières varient presque autant que celles entourant la gastronomie, l'acclimatation peut être difficile. André Lacasse, planificateur financier, et conseiller en sécurité financière pour Services financiers Lacasse, donne l'exemple de clients originaires d'Afrique de l'Ouest pour qui le principe d'épargne-retraite est un non-sens. Dans leur culture, ce sont les enfants qui, une fois adultes, subviennent aux besoins de leurs parents âgés. Méchante différence. Vous êtes nouvellement établi au Québec et tenté d'apprivoiser le monde des comptes bancaires, des cartes de crédit, de l'épargne, de la fiscalité, de l'immobilier et de la retraite. Eh bien, la revue Protégez-vous a concocté ce dossier pour vous épauler dans vos démarches. Moi, je n'aurai pas le temps de tout vous dire ça ce matin,
non.
Mais vous pouvez vous procurer le Protégez-vous du mois de juin.
Ah, OK.
C'est bon?
Mm-hmm.
OK. Alors, on va vous parler d'ici comment ouvrir un compte bancaire, apprivoiser la carte de crédit, acheter un condo ou une maison. Alors, même si on est d'ici, ce n'est pas évident non plus. Hein? Bon. Ensuite de ça, penser à la retraite. Pas évident non plus. OK. Ensuite de ça, payer vos impôts, votre devoir. Oh là là. Tiens, par exemple, plusieurs immigrants interviewés pour les besoins de ce dossier estiment que les régimes fiscaux québécois et canadiens sont relativement simples. Et Jeffrey Cognard, par exemple, prépare ses déclarations de revenus lui-même avec un logiciel d'impôt. Alors, c'est assez facile, dit-il. Et comme je suis salarié, l'impôt et les cotisations sont prélevés directement de mon chèque de paye. Ça évite les mauvaises surprises. Mais si vous venez d'arriver, il ne sera peut-être pas si aisé d'apprivoiser le système de la double déclaration de revenus du Québec et du Canada. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux nouveaux arrivants préfèrent recourir au service d'un comptable. Et la règle de base pour chaque année financière, vous devez, au plus tard, hein, le 30 avril qui suit, produire une déclaration de revenus auprès du gouvernement fédéral et une autre auprès du gouvernement provincial, et ce même si vous n'avez été présent au pays que durant une partie de l'année considérée, et même si vous n'avez pas travaillé. OK? Alors, s'il y a des nouveaux arrivants, là, qui m'écoutent ce matin, qui m'écoutaient, eh bien, ça, c'est une partie de l'article que je viens de vous lire. Il y a 368 000, je l'ai.
OK, d'accord.
My God! Excusez. Bon, alors, il faut bien en rire. Hein? Alors, vous avez, par exemple, vous avez acheté un condo. Non, on n'achète pas de condo un matin, c'est trop compliqué. Ensuite de ça, payez votre impôt. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce que vous devriez savoir? Vos revenus et vos biens à l'étranger. Alors, si vous avez des revenus et des biens à l'étranger, comment gérer tout ça? Ensuite de ça, pensez à la retraite, les rentes gouvernementales, les REER, etc. Oh, mon Dieu, Seigneur.
Ah, vous pouvez développer sur ce sujet?
Certainement.
Allez-y.
Dis-moi, ça vous intéresse?
Oui.
Ah, êtes-vous un nouvel arrivé, vous?
Peut-être. On y pense.
Pensez-vous à partir bientôt?
D'ici?
Alors, les rentes gouvernementales. Justement, il faut que j'y aille. Alors, les retraités canadiens ont droit à une rente de chacun des deux ordres de gouvernement. Au provincial, le régime des rentes du Québec est un régime d'assurance publique et obligatoire qui assure une protection financière de base à la retraite. Tout travailleur québécois y cotise dès que ses revenus dépassent 3 500 $ par année. Le travailleur sera admissible à une rente s'il a cotisé au moins un an au RRQ, explique Frédéric Lisotte, porte-parole de la retraite de Québec. Le montant est calculé en fonction de ses revenus de travail inscrits ainsi que de l'âge auquel il commence à l'apercevoir. Il est possible de demander votre rente auprès de Retraite Québec à partir de 60 ans. Mais comme des pénalités s'appliquent lorsque vous la réclamez avant 65 ans, il pourrait être préférable de patienter jusqu'à cet âge. Tout dépend de votre situation. Consulter un conseiller en services financiers peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Et inversement, la rente sera bonifiée si vous la percevez après 65 ans, indique Yves Graton, conseiller en sécurité financière indépendant. Et par ailleurs, si vous avez travaillé dans un autre pays, vous pourriez recevoir une pension issue du régime étranger. C'est bon, ça?
Oui, c'est
ça. Ça répond à votre petite question?
Oui, tout à fait.
Hein?
C'est un élément
bon,
de plus
pour
moi.
Tant mieux, c'est merveilleux.
Merci.
C'est terminé?
Ah, ben oui.
OK. Alors, bonne chance à tous les nouveaux arrivants.
Ah, OK.
C'est bon?
Oui, tout à fait. On va y aller avec quelques brèves. Roger, vous avez une brève.
La prison plutôt que la solitude. Au Japon, les arrestations impliquant des aînés, et en particulier des femmes, augmentent à un taux plus élevé que pour les autres tranches d'âge de la population. Ainsi, une femme sur cinq dans les prisons du pays a 65 ans ou plus. La pauvreté et la solitude pousseraient bon nombre de ces femmes à commettre des crimes mineurs, vol à l'étalage dans 9 cas sur 10, parfois expressément pour aller en prison, où elles trouvent logement, repas et compagnie.
Ah, quand même. Mmh. De mon côté, écoutez bien celle-là. Toucher le paysage. Ford Italy lance une fenêtre intelligente permettant aux aveugles de voir les paysages qui défilent autour d'eux lors d'une balade en voiture. Et tout ça, c'est grâce à un appareil intégré. C'est le dispositif qui prend des photos de l'extérieur qui sont ensuite traduites en vibrations d'intensité variable sur la fenêtre sur laquelle la personne non-voyante peut ressentir le paysage en le parcourant du doigt. Et pour une expérience optimale, une intelligence artificielle décrit aussi les alentours. Hein, quand même très intéressant. Hein? Alors voilà, c'est tout pour l'émission. On remercie M. Yannick Marcille pour sa visite qu'on va retrouver dans un mois. À peu
Avec
près.
Plaisir.
On remercie aussi Roger Roy, encore très agréable ce matin, et Serge Hamelin.
Oui.
Et aussi Jean-Sébastien Laliberté, qui est de l'autre côté de la vitre à laquelle il mène ça d'une main de maître. Je vous rappelle, l'émission, elle est diffusée à tous les jours à 9h le matin. Et l'horaire complet, vous l'aurez sur canalm.vuesetvoix.com. Alors, on vous souhaite une excellente semaine. Mon nom est Claude Blas. Bien heureux de vous avoir parlé ce matin.
À la prochaine. Au revoir.